Bonjour, bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter avec vos rendez-vous habituels au sommaire jusqu'à 13h, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis le débat, comment penser, comment inventer la France de demain, l'archipel français, les fractures françaises sont-elles des fatalités et puis comment réunir des territoires éclatés, métropoles, petites villes, campagnes, zones périurbaines, comment concilier les cultures les plus locales, les traditions et le monde que dessine la révolution technologique et numérique en cours, l'avenir est à la paysannerie. C'est le fil rouge d'un essai que publie l'un de nos grands sociologues, Le Sacre de la Terre, paraît aux éditions de l'Aube. Jean Viard travaille sur les mutations de notre société depuis des années et il viendra nous rejoindre d'ici une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et on commence avec le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va commencer le débrief de l'actualité avec évidemment ce qui a occupé la scène médiatique ces derniers jours.
Ce que je peux vous dire, c'est que les choses les plus efficaces sont toujours les plus simples et ce sont les plus rapides et ce sont celles qui marchent. Et ça a été le cas, je m'en félicite, je revis.
Voilà, c'était la voix de Carlos Ghosn, entretien exclusif qu'il accordait à Léa Salamé sur France Inter, l'ex-PDG de Renault-Nissan qui continue de clamer son innocence depuis Beyrouth où il est réfugié depuis une dizaine de jours. Étonnante stratégie, en général les fugitifs, on va le dire rapidement, font profil bas. Carlos Ghosn a choisi la stratégie inverse, prendre les devants, occuper la scène médiatique, s'adresser aux journalistes, à des centaines de journalistes. Gilles Finkelstein, que pensez-vous de cette histoire ?
Oui, il lui est sans doute plus difficile de ne rien dire qu'à un fugitif classique compte tenu de qui il est, de la manière dont il a quitté le Japon. Cette conférence de presse a été, disons, une contre-offensive très maîtrisée dans sa forme, jusqu'au choix des horaires, des langues, des journalistes, et très maîtrisée, y compris sur le fond, dans lequel on a vu qu'il y avait une volonté de hiérarchiser de manière très précise les attaques et de ne pas en dire trop.
Et de défendre son héritage de capitaine d'industrie, et notamment à la tête de Nissan.
À force de ne pas en dire trop, on n'en sait pas beaucoup plus. On n'en sait pas beaucoup plus, et donc c'est assez difficile d'aller plus loin sur le fond de ce dossier, à la fois sur les attaques qui sont portées contre Carlos Ghosn et des attaques qui sont portées par Carlos Ghosn. Donc on reste un peu sur sa fin à l'issue de cette conférence de presse. Cette séquence éclaire un peu sur la personnalité quand même de Carlos Ghosn, qui a à la fois un parcours d'exception, une intelligence d'exception, on l'a vu aussi, une capacité à la fois de vision et d'exécution, et une avidité d'exception, avidité de pouvoir, avidité d'argent. C'est une personnalité qui est plus atypique qu'empathique, si on veut le résumer. Et puis, dernier point, sur le bilan de Carlos Ghosn à la tête de Renault et de l'alliance Renault-Nissan, puisque c'est un point sur lequel il est beaucoup revenu pour défendre ce qu'il avait fait et montrer qu'il y a un avant et un après Carlos Ghosn. Et j'ai quand même le sentiment que les choses sont un peu plus complexes que cela, au sens où le bilan de Carlos Ghosn a ses ombres. Il a eu, pour le coup, des aspects visionnaires. Il a été parmi les premiers sur l'électrique. Il a été l'architecte de l'alliance avec Nissan et du moment où il était possible de le faire, sur le low cost auquel personne ne croyait. Mais c'est aussi un homme des délocalisations massives d'emplois et d'une alliance qui, pour beaucoup, était une alliance factice, dont on a vu après son départ qu'en réalité, elle ne fonctionnait pas. Elle ne fonctionnait pas depuis longtemps. Et donc, je crois que la césure, ce n'est pas seulement avant et après Carlos Ghosn.
Natacha Polony.
Je pense que ce qu'il y avait de frappant cette semaine, c'est qu'on avait une opération de communication très réussie en effet, et qui visiblement a d'autant plus marché que les principaux commentaires qu'il y a eu étaient sur la personnalité de Carlos Ghosn, le fait qu'il avait réussi cette opération de communication, qu'il était impressionnant, et mon Dieu comme il parle bien, et mon Dieu il parle plusieurs langues. Or, le problème est que cette opération-là ne pouvait pas nous apprendre grand-chose pour une raison simple. C'est que les éléments de défense de Carlos Ghosn sur les accusations qui lui sont faites au Japon, ce sont des éléments dont peu, pour l'instant, ont été mis en place parce que ça va être l'objet, justement, d'un travail judiciaire. On ne sait pas, pour l'instant, exactement ce qu'il en est des malversations supposées de Carlos Ghosn. Mais en revanche, ce qu'il y avait d'intéressant dans cette conférence de presse, c'est le fait que Carlos Ghosn, lui, a accès, et on le comprend parfaitement, sur un élément qui était l'élément premier, c'est-à-dire le constat que par-delà les malversations possibles qu'il ait commis, nous sommes dans une guerre économique. Et que dans cette guerre économique, Gilles disait, l'alliance Renault-Nissan était plus ou moins factice. C'est-à-dire que vous avez un pays comme le Japon, qui est un pays patriote, voire nationaliste.
Le Japon,
en tout cas, oui, bien
pas
sûr.
La France.
Alors, la France n'est pas particulièrement nationaliste dans sa pratique commerciale et industrielle. Hein. C'est même plutôt totalement l'inverse. Nous sommes un des pays qui cultive cet art de ne pas protéger ses entreprises. Donc, nous avions là, et d'ailleurs, dans un sens, c'est peut-être parce que Emmanuel Macron est sur une ligne un peu complexe que tout ça est arrivé. Alors, dans la mesure où Emmanuel Macron, en tant que ministre de l'économie, a poussé pour l'intégration finale de Renault et de Nissan, en gros la fusion. Carlos Ghosn prétend qu'il n'était pas pour, qu'il était plutôt à l'époque assez réfractaire, et qu'en fait il est victime de cela. Et c'est ce point-là, moi, qui me semble intéressant, parce que bon, évidemment il y a le volet judiciaire, est-ce qu'il est un homme honnête ou pas, est-ce, en tout cas il est... Pour reprendre le terme de Gilles, il est pour le moins avide, ça c'est clair. Mais la question est celle de savoir comment deux pays réussissent ou non à la fois s'ouvrir à l'autre et préserver leurs intérêts. Or, visiblement, dans ce jeu-là, la France n'a pas été très douée, puisque, souvenez-vous, quand Carlos Ghosn a été arrêté, c'était le fruit d'une enquête de plus d'un an dans laquelle jamais les autorités françaises n'avaient été mises au courant. Et c'était un travail conjoint entre Nissan, le ministère de la Justice et le ministère de l'Économie japonais, parce que eux, ils travaillent main dans la main.
Encore un mot, Gilles.
Oui, s'agissant du Japon, il y a la spécificité de son rapport aux entreprises et de ce nationalisme économique qu'évoque Natacha et qui, de fait, est une singularité japonaise par rapport aux pays de l'Union européenne en général et à la France en particulier. Il y a une autre singularité qui n'est pas seulement une singularité japonaise, mais dans laquelle, pour le coup, il y a une singularité européenne qui est sur la justice japonaise et dans l'équilibre que l'on y voit entre les droits de la société et les droits de l'individu. Et ça, c'était un élément qui était très frappant et qui est ressorti aussi, pour le coup, que l'on comprend dans ce que disait Carlos Ghosn lors de sa conférence de presse.
Est-ce que vous avez compris sa fuite ?
D'un point de vue humain, je la comprends tout à fait.
Et vous, Natacha?
Même chose, c'est-à-dire, d'un point de vue en effet individuel et personnel, il courait le risque de passer quand même un nombre d'années absolument énorme en prison. La justice japonaise n'est pas du tout comme la justice française. Elle est calquée sur le modèle américain, mais en plus coercitif, puisque à l'origine, c'est les principes sont ceux du système américain, mais avec une capacité pour le procureur, en gros, à mener totalement la danse et à, disons, gagner en général les procès, qui est quand même assez angoissante. Donc on peut comprendre qu'il ait cherché à fuir. Après, d'un point de vue juridique, moral, etc., voilà, la fuite d'un justiciable est problématique, point.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
On est dans un chagrin profond qui partira jamais, mais pour l'honneur de mon père, j'aimerais que justice soit faite. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas d'ennemi. Mon seul ennemi, c'est le désespoir et l'injustice. Parce que c'est des valeurs que mon père il m'a inculquées. Malheureusement, il y a trop de vérités cachées, trop de choses camouflées. J'aimerais juste que les mensonges cessent.
C'était Sophia Chouvia, la fille de Cédric Chouvia, chauffeur-livreur, vous savez, qui est décédé la semaine dernière à la suite d'un contrôle de police à Paris, asphyxie, fracture du larynx. Le défenseur des droits s'est saisi de l'affaire et parmi les nombreuses questions qui sont posées par ce décès de Cédric Chouvia, il y a les méthodes d'intervention, certaines méthodes d'intervention des forces de l'ordre, la violence, la brutalité également. Qu'est-ce que Gilles, vous retenez de ce qu'on vient d'entendre de Sophia Chouvia qui réclame simplement que justice soit faite pour son père?
Que la lumière soit faite, que la justice soit faite. On comprend que ce soit la volonté de sa fille, mais c'est au-delà de sa fille, je crois, la volonté qui doit être celle de l'ensemble de la société. Parce qu'on est sur beaucoup des crises que nous devons auxquelles nous sommes confrontés sont des crises qui sont d'une certaine manière extérieures à nous. La crise climatique, la crise, la révolution numérique, la mondialisation économique. Là, il y a des choses qui ne dépendent que de nous. Que de nous. Et il y a une crise qui est un bon symptôme des tensions qui traversent la société française. D'abord, il faut s'interroger sur quelle est la crise de confiance entre la France, entre les Français et leur police. Et j'ai été frappé quand j'ai regardé depuis 10 ans l'évolution de la confiance des Français envers la police. Qu'est-ce que l'on constate ? Baromètre du Cevipof depuis 2010. C'est qu'il y a On aurait pu penser qu'il y avait une première date qui était avant et après les attentats. Mmh. Et puis une deuxième date qui était avant et après les gilets jaunes et les violences que l'on a vues à ce moment-là. Tel n'est pas le cas. Il y a eu une progression de la confiance des Français envers leur police.
Depuis 10 ans.
Qui est aujourd'hui à un niveau élevé. Élevé dans l'absolu, vous avez près de 75% des Français qui ont confiance dans la police, et élevé en relatif par rapport à la défiance des autres institutions. Mais vous avez 25% des Français, ce n'est pas rien, qui n'ont pas confiance et qui expriment de l'inquiétude, voire de l'hostilité par rapport à la police. Et ce que l'on voit, manifestation après manifestation, fait divers après fait divers, montre qu'il y a un problème et qu'il faut se saisir de ce problème.
Mais qu'il y a un problème chez les policiers.
Alors, il y a un problème de violence.
Ou au ministère de l'Intérieur.
Alors, il y a un problème dans la société de violence. Et il y a maintenant, je crois qu'on doit le dire, un problème de violence des policiers et qu'il faut réfléchir aux remèdes pour rétablir cette confiance.
Natacha Polony.
Oui, je pense que on a vu petit à petit dans le courant de l'année 2019 des dérives de plus en plus grandes et qui sont sans doute liées à un problème de commandement, j'allais dire, et d'organisation des forces de police qui ont eu à subir, bien sûr, des tensions, des difficultés, sauf que le pouvoir a été obligé de s'appuyer énormément sur ses forces de police pour tenir dans un moment où il refusait de gérer politiquement les choses. Et donc, il les gérait de façon sécuritaire. Ce qui a sans doute déstabilisé le rapport entre le pouvoir et la police, qui a déstabilisé l'organisation même de cette police.
Vous n'y voyez pas un choix de changer de doctrine de maintien de l'ordre, en l'occurrence, en permettant ce qui n'était pas pratiqué avant?
Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a un déséquilibre et une trop grande, on va dire que la bride a été laissée sur le cou à certains policiers parce que il y a eu à gérer des tensions qui, évidemment, pour les policiers eux-mêmes, étaient difficiles, étaient violentes, étaient fatigantes, et que ce processus de déséquilibre et c'est pas de la liberté, mais disons d'abandon d'une gestion extrêmement stricte de cette question des bavures policières, sans doute explique l'augmentation tragique du nombre de violences policières. Il y a un processus qui nous échappe.
Gilles, comment expliquer juste d'un mot que, par exemple, les méthodes d'intervention qui ont entraîné la mort de Cédric Chouviat soient encore autorisées en France alors qu'elles sont interdites dans de nombreux pays et même dans des États américains où l'on sait que la police a les mains beaucoup plus libres qu'en Europe, en Californie par exemple, ou dans l'État de New York?
Oui, c'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas seulement un problème de commandement. Il y a un problème de commandement, il n'y a pas seulement un problème de commandement. Il y a un problème de confiance dans les techniques policières. La question des armes, quelles armes utilisent, et c'était la question des LBD que l'on a vu depuis les gilets jaunes. Question de méthode, cette question du plaquage ventral qui a été à l'origine de la mort de Cédric Chouviat. Et même au-delà des relations de la police avec ses concitoyens. Il y a une question de la confiance dans les contre-pouvoirs, qui aujourd'hui est principalement dans les mains de l'IGPN, de la police des polices, et dont à la fois l'indépendance par rapport à la police elle-même et la transparence des procédures, je crois, est de plus en plus interrogée. Et puis, il y a la question qu'évoquait Natacha Polony du commandement, c'est-à-dire des relations entre le pouvoir politique et l'administration de la police, avec ce sentiment qu'il y a quelque chose de vicié parce que l'État est en dette. par rapport aux policiers. Il est en dette morale avec une surmobilisation et un épuisement des troupes. Et il est en dette financière parce qu'il est dans l'incapacité de payer les heures supplémentaires. Et donc, il y a un rapport de force qui n'est pas un rapport de force sain entre le pouvoir politique et la police aujourd'hui.
En effet, c'est exactement ce que je disais. Et j'y ajouterais, en plus de la question de l'IGPN, la question de la justice. C'est-à-dire que quand on regarde la façon dont ont été traités d'un point de vue judiciaire toutes les bavures policière ou soupçons de bavure policière depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a quand même un problème. Et je prends pour exemple simplement ce cas où là, vous avez la vidéo de cette jeune Gilet jaune, je crois qu'elle s'appelle Mélanie, qui se prend un coup de matraque, qui reste assommée alors qu'elle est là, elle se prend une charge de CRS.
Bon, alors qu'elle ne représente aucune menace.
Elle ne représente aucune menace, elle n'est pas en train d'agresser. Je suis d'accord qu'il faut être prudent, qu'il faut savoir quel est l'avant-vidéo, etc. D'accord. Mais tout de même, un non-lieu, ça me semble quand même, comment dire, un peu léger. Et ce n'est pas le seul cas. Et c'est pour ça que, évidemment, que la question de la justice sur cette affaire, ce qui va être fait, oui, nous avons tous besoin, et les citoyens français dans leur ensemble, ont besoin que la justice soit faite, et soit faite dans le calme.
Est-ce qu'il faut penser que le pouvoir est cynique ? Et qu'il est, en l'occurrence, extrêmement réaliste. Vous citiez ce chiffre. 75% des Français soutiennent les forces de l'ordre, Gilles. Très simplement, c'est vrai que ce qui peut choquer, à savoir des brutalités, de la violence chez les forces de l'ordre, finalement, ça choque qu'un quart de la population.
Alors, je ne parie jamais, moi, sur le cynisme. J'ai noté en août dernier que le président de la République, après le sommet de Biarritz, pour la première fois, il avait continué à refuser de parler de violences policières, mais pour la première fois, il avait dit qu'il fallait repenser certaines méthodes. Eh bien, nous sommes 6 mois après, et ça serait très intéressant de savoir où en est la réflexion pour repenser ces méthodes. J'ai la crainte que pas grand-chose ne se soit passé, mais j'attends de voir, et je souhaite que ce ne soit pas le cas.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.